Notre invité est en studio et je l'en remercie, Julia Paduche, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints pour parler de sport et de santé, parce que vous êtes alors marathonienne, on voit régulièrement vos exploits dans la presse, auprès de Jérémy dans la demi-heure sport le mercredi soir, vous êtes régulièrement invité. Vous faites partie du Bergerac Athletic Club, et puis on parlera bien sûr des objectifs, des rendez-vous de cette année 2000, nouvelle saison, 2026-2027, et puis également de votre activité, parce que en parallèle de votre activité de marathonienne, eh bien, vous avez un travail intense, important auprès de la population grâce à la CAMI. Vous intervenez auprès des personnes qui sont atteintes de cancer, hein, n'ayons pas peur des mots, même si souvent le mot a du mal à sortir, on a du mal encore à dire ce mot-là. Donc c'est une activité intense que l'on va évoquer avec vous. Bon, on va commencer par l'objectif sportif. Je le disais chez nos confrères de la presse écrite auprès de Jérémy sur notre antenne, on voit régulièrement vos résultats plutôt bons quand même, hein, vous êtes bien placé. Comment vous avez vécu cette saison avant d'attaquer la nouvelle là?
Alors cette saison, elle a été vécue de manière un peu spéciale parce que j'ai bénéficié d'une transition vers le Bergerac Athletic Club avec Christophe Lenocher, mon nouveau coach, qui est également le coach de Johan Durand, figure connue et reconnue de l'athlétisme en Dordogne, qui est également passé dans la demi-heure sport de Liberté FM avec Jérémy Grégoire, vous en parliez tout à l'heure. Là, cette saison, ça a été vraiment une appropriation pour le coach de ma manière de fonctionner. Ça a été pour moi finalement une façon de vérifier que l'environnement me convenait à Bergerac. Habitant à Annès et Beaulieu, j'ai une heure de route deux fois par semaine pour aller à l'entraînement. Donc voilà, j'ai voulu vérifier que le trajet n'était pas trop lourd, que le coaching de Christophe Lenocher, qui est différent de Patrick Petitbreuil que j'ai eu dans le passé, me corresponde aussi. Christophe est sur du qualitatif et énormément dans le détail, dans un coaching très raisonné et raisonnable, mais finalement qui me convient bien. J'ai réussi à m'approprier aussi un nouveau groupe qui est très chaleureux et qui ne valorise pas que la performance, mais également beaucoup plus l'être humain que dans le coaching que j'avais avec Patrick Petitbreuil. Donc il y a également finalement tout un changement de contexte. Cette saison, j'ai réussi à faire championne interrégionale de cross, donc très très contente. J'ai maintenu mon titre de l'année dernière. En début de saison, en octobre, juste avant de rentrer dans le coaching avec Christophe, j'avais fait le marathon du Cher en 2h49. Donc c'est un marathon que j'ai mal géré et c'était un marathon découverte. Donc très bon chrono pour un marathon si peu pris au sérieux pour moi, avec un coaching assez approximatif à l'époque. J'ai réussi aussi cette saison quand même à être 12e senior sur les France de 10 km, à faire 1h18 sur le marathon des Sables d'Olonne, le semi-marathon des Sables d'Olonne. Il est assez mythique, il est assez difficile, il y a beaucoup de vent, il fait souvent très chaud. Donc ce semi-marathon a été symbolique et m'a montré finalement que malgré un coaching différent, je maintenais mon niveau et que je pouvais aussi le développer parce que j'avais encore des capacités à exploiter. C'est mon instinct qui me le dit, je vais ressentir sur cette saison, donc c'est très instinctif. Et puis les athlètes ont fonctionné énormément comme ça, au ressenti. J'ai également soigné mon hygiène de vie, essayé d'ajouter des choses comme de la cohérence cardiaque, un meilleur sommeil, avec notamment de la mélatonine que je prends avant de dormir à base de plantes pour m'aider aussi à améliorer la qualité et la quantité du sommeil. Donc petit à petit, on a calé les choses avec Christophe. La saison à venir, je l'envisage avec un très beau, j'espère, un titre sur les France de marathon. Faut pas avoir peur des mots, à presque 30 ans maintenant, j'ai envie d'aller chercher des titres en exploitant le potentiel, en cadrant les entraînements avec un excellent coach qui est Christophe Lenocher. J'espère aller chercher au moins 2h40 ou du moins m'en rapprocher sur marathon, ce qui serait déjà énorme. Ça me ferait gagner 10 minutes par rapport à ce que j'ai fait au Cher l'année dernière. J'aimerais également me maintenir sur cross-country, aller sur les France de cross, chercher Enfin, peut-être une 20e place, c'est mon rêve depuis 5 ans, j'ai toujours pas réussi, c'est très, très sélectif à chaque fois, il y a les triathlètes devant. En mars, je suis jamais à mon pic de forme, donc là, mieux gérer la saison pour aller chercher aussi quelque chose de beau sur cross. Et puis enfin, sur 10 km, bah, le rêve ultime, aller enfin rentrer dans la cour des grands et passer de mon record qui est en 34 minutes 25 secondes en 34 minutes 00. Et là, ça me permettrait de rentrer en National 1. Donc à 25 secondes près, la vie peut être chamboulée. J'espère y arriver cette saison. Je dis que j'espère, mais en fait, je vais tout mettre en place pour et certainement y arriver avec l'aide de Christophe et d'un groupe qui me soutient. Ce qui n'a pas forcément toujours été le cas dans le passé.
Il y a des compétitions qui s'annoncent là, dans les prochains mois.
Oui, tout à fait. Le marathon de La Rochelle, le 29 novembre. Donc j'ai eu mon dossard offert. Les organisateurs me font confiance pour aller chercher en élite un très beau record. Les organisateurs m'ont demandé quand même sur quelle base je voulais partir pour m'offrir le dossard élite. Je leur ai dit 2h40, c'est presque un engagement finalement que je me dois de tenir pour eux, par respect pour l'organisation et pour Christophe aussi qui va me coacher sérieusement dès septembre autour de cet objectif. Il ne faut pas oublier que j'ai aussi fait mes preuves cette année sur le semi-marathon du Mont Ventoux. Je me suis classée derrière des Olympiennes, à une minute des Olympiennes, avec un chrono de 1h49. Donc ça m'a permis finalement de me rendre compte que les Olympiennes étaient humaines, que j'avais cette capacité à certains moments en pic de forme à être meilleure qu'elles. Ça me l'a fait en passant devant Manon Trapp à la mi-course. Je me suis rendu compte aussi que fallait croire en soi et que la confiance en soi avait énormément d'impact sur la performance et qu'après 13 ans d'entraînement, il fallait pas que j'aie peur de me faire confiance et de prendre des risques et que je n'ai pas le syndrome de l'imposteur finalement face à des Olympiennes ou à des filles finalement qui sur le papier ont un meilleur niveau. On sait que le jour de la course, tout peut basculer. On l'a vu récemment avec Étienne Daguin aux Europes qui finalement a réussi à faire une troisième place de bronze alors qu'il était peu attendu. Donc finalement, il y a beaucoup de situations en tant que coureur qui nous font réfléchir et on peut passer devant des athlètes qu'on ne soupçonnait pas à n'importe quel moment.
Est-ce qu'il y a des objectifs à terme, championnat d'Europe, voire JO Los Angeles?
Oui, bien sûr, hein, c'est trop tôt pour en parler. Et puis, bon, pour l'instant, le niveau n'est pas là. Par contre, c'est vrai que j'ai un objectif précis en tête et mon instinct me dit d'y croire et d'aller au bout. C'est les France de 100 km, en fait. J'aimerais beaucoup faire des France de 100 km. Je suis mieux sur de la longue distance. Je peux courir très longtemps à un rythme très soutenu. Je suis pas très bonne en vitesse. Et finalement, en rallongeant après le marathon, en allant sur 100, du 100 km route, je pense que je peux aller chercher mon plein potentiel. Donc là, c'est un projet qui est dans les tuyaux, comme on dit, et Christophe est au courant, donc on n'a plus qu'à l'exploiter dans les années à venir.
Bon, ben vous reviendrez nous en parler avec Jérémy, pourquoi pas,
avec plaisir.
Dans ce rendez-vous en ma compagnie. On va parler également du travail que vous faites à la CAMI, parce que là aussi, vous avez un rôle très important. On a parlé de votre épanouissement grâce au sport et la course et le marathon. Mais il y a un épanouissement aussi pour vous dans ce travail auprès des malades par le biais de la CAMI.
Tout à fait. Alors la CAMI, je l'ai intégrée en août 2022.
4 ans.
Donc il y a maintenant 4 ans, j'étais anciennement agent de développement à la SPTT Grand Périgueux. J'ai vu ce poste passer, j'avais déjà postulé en 2021. À l'époque, je n'étais pas prête et je n'avais pas passé les entretiens. Il y a 4 entretiens pour vraiment accéder à l'association, au poste. Donc finalement, j'étais admise en tant que praticienne en thérapie sportive, c'est le terme précis, en août 2022. Ça a été une année très compliquée, l'année d'immersion, avec beaucoup de chamboulements face à la maladie. Il a fallu se protéger. J'étais pas prête psychologiquement. Donc, on n'est jamais prêt finalement à affronter de face la maladie quand on a 23 ans. Donc, finalement, j'ai fait mon chemin. Et là, j'arrive aujourd'hui avec un bon bagage, avec des connaissances grâce au DU Sport et Cancer, au diplôme universitaire Sport et Cancer que j'ai passé en 2022 en arrivant à la CAMI. Et j'essaie de me perfectionner en lisant des livres, en m'intéressant toujours plus à la pathologie. du cancer et aux pathologies de manière générale. Je rappelle que j'ai un diplôme, une licence TAPS en activité physique adaptée et santé qui me permet finalement de prendre en charge des personnes en situation de handicap. J'ai écrit mon mémoire sur l'infarctus du myocarde et travaillé en centre de rééducation à Lalande, notamment avec les personnes qui ont fait les AVC, les infarctus. J'ai travaillé également avec des personnes en situation d'obésité, d'anorexie. Donc voilà, il y a tout ce travail qui a été construit au fil des années. Là, au sein de la CAMI, nous avons un changement récent. Donc actuellement, j'interviens sur Bergerac, dans la salle des jeunes de Lamonzie-Saint-Martin. Et j'interviens au dojo Michel Dasseux à Coulounier. Donc sur un 25 heures par semaine, pour centraliser, pour bien cibler les séances et permettre à côté de bien développer la communication et l'ensemble des activités de l'asso. Donc j'ai également développé une chronique radio il y a un an. Oui. Voilà, ouais.
Chez RLP.
C'est ça. chez vos confrères de RLP, j'y vais une fois par mois dans leur nouveau studio pour parler finalement de l'activité physique thérapeutique et du cancer. Donc cette chronique, elle s'appelle « Activité physique thérapeutique et cancer, parlons-en ».
Alors nous allons parler de ce que vous faites à la fois à la Monzie-Saint-Martin et au dojo de Michel Dasseux de Coulounier-Chamier. À qui vous adressez-vous ?
Alors, je m'adresse aux personnes en situation de cancer.
Quel que soit le type de cancer.
C'est ça, exactement. Tout type de cancer. Alors, ça peut être des cancers hématologiques, cancer du sang, ou cancers plus oncologiques, comme les cancers du sein, de la prostate, des poumons. Donc, on est sur tout type de cancer. L'oncologue ou l'hématologue fait une prescription médicale au patient pour que le patient puisse venir finalement sur les séances. C'est une sorte d'autorisation pour assurer la sécurité du praticien et du patient. Ensuite, le patient, il me contacte et on commence tout un protocole avec une consultation initiale qui parle de l'histoire de la maladie du patient. Sur 30 minutes, le patient va me partager l'histoire de sa maladie. Je vais prendre des notes minutieusement et puis quelques tests de conditions physiques pour que le patient et moi-même sachent où on en est, où le patient en est physiquement et où, jusqu'où on peut travailler. Donc on va fixer des objectifs thérapeutiques, 3 objectifs thérapeutiques maximum pour le patient, pour travailler sur les 3 prochains mois. Le patient, il va venir sur 2 séances par semaine, d'une heure chacune, sur 3 mois, 2 séances.
Aussi bien femmes que hommes dans ces séances.
Femmes et hommes. En effet, on est sur une mixité des genres, mais également en termes de cancer. Et c'est toute la partie délicate du métier. On peut avoir différents types de cancers avec un cancer du poumon, un cancer du sein sur la même séance avec des objectifs différents. Par exemple, concrètement, le cancer du sein, on va travailler surtout post-chirurgical sur de la mobilité gléno-humérale, donc l'articulation de l'épaule, pour aller récupérer la mobilité du bras. Et aussi éviter l'adhérence cicatricielle, donc que la cicatrice finalement vienne se coller au muscle et bloquer le mouvement. Et dans le cadre par exemple du cancer de la prostate post-chirurgical, il va y avoir tout un travail du périnée à faire pour éviter que l'homme finalement ait des fuites urinaires suite au périnée qui pourrait être touché suite à la prostatectomie, au retrait total ou partiel de la prostate. Donc il y a tout ce travail à faire très ciblé en fonction des personnes. Pareil pour un cancer du poumon. Les métastases étant dans les poumons, il va y avoir tout un travail de respiration à faire pour augmenter l'amplitude respiratoire, l'amplitude de la cage thoracique, donc, pour éviter que la personne s'asphyxie à l'effort ou manque d'oxygène. En compensation de la tumeur dans le poumon ou les poumons, parce que des fois les deux sont atteints, il va y avoir tout ce travail d'amplitude à faire respiratoire. Donc, vous comprenez bien que ces 3 objectifs, par exemple, doivent être intégrés sur 1 heure de séance. Et donc, il faut faire des exercices qui correspondent à chacun et que chacun se sente concerné par les bénéfices par la suite. Il faut que le patient vienne me voir et me dise, au bout d'un mois, déjà, je ressens les bénéfices, c'est intéressant. Alors, les bénéfices, on parle d'un mois, mais minimum, avec beaucoup d'assiduité. et souvent même 3 mois pour que le patient commence à vraiment observer une transformation du corps bénéfique, avec moins d'effets secondaires, vous voyez, moins de douleurs articulaires aussi. La chimio, l'immunothérapie, la radiothérapie vont créer beaucoup d'effets secondaires, douleurs parfois cardiaques, le cœur peut être abîmé, mais il y a également des douleurs articulaires, une fatigue très intense. Et il a été prouvé scientifiquement que plus on bouge, plus le muscle est oxygéné, moins il y a d'anémie, et donc le cerveau aussi, qui est un muscle oxygéné, et que le patient est moins fatigué.
De toute façon, il faut, même si on n'est pas malade, bouger. C'est important.
Oui, c'est ultra important, Pascal, ce que vous rappelez, parce qu'il y a la prévention primaire. Là, on parle de prévention tertiaire, ou secondaire ou tertiaire, quand la maladie est apparue. Bouger quand la maladie est apparue, c'est limiter la casse, vulgairement
parlant,
dit. Mais c'est vrai que tout ce qui est prévention primaire avant l'apparition de la maladie, ce qu'on voit dans les médias, bouger 30 minutes par jour ou manger 5 fruits et légumes par jour, ben, en fait, c'est essentiel. Et on devrait tous être dans la mobilité pour s'approprier son corps. On ne parle pas que de changements esthétiques dans la prévention primaire avant l'apparition de la maladie. On est aussi sur du changement à l'intérieur de soi. Moins fatigué, moins de stress. Les personnes ont une capacité de concentration plus élevée. Là, je vois, j'ai fait du vélo ce matin, j'ai une concentration élevée à la radio avec vous pour vraiment répondre aux questions. Donc, il y a tout ce travail, finalement, de passer au-delà de l'esthétique, et c'est pas évident dans la société actuelle. On est dans une société plutôt dans la forme du corps, dans l'apparence. Les réseaux sociaux renforcent ça. Et même si moi-même, je suis une adepte des réseaux sociaux et je les développe avec amplement ces derniers temps, il y a quand même toute cette réalité de santé. Et il faut qu'on se reconnecte à soi. Le sport a aussi cette vertu.
Alors, pour en revenir à ce que vous proposez, donc sur Coulounieix-Chamiers et La Mauzie-Saint-Martin, on l'a bien compris, il y a une mixité dans ces ateliers. Quel est l'âge de ces patients que vous accompagnez finalement à travers ces séances et pendant plusieurs mois ?
En fait, l'âge, c'est de 18 ans jusqu'à 100 ans. En fait, j'ai une amplitude d'âge qui est extrême. Donc, j'ai des personnes âgées avec des personnes jeunes. La plus jeune, 30 ans, et la plus âgée, là, 84 ans. Donc, une amplitude sur une même séance. Donc, tout l'enjeu, il est là, permettre à chacun de prendre goût à la pratique et de suivre le mouvement, peu importe son âge, peu importe le genre, peu importe le type de cancer. Là, il faut qu'on soit entièrement au service des personnes et en sachant s'adapter. Alors, le but de la pratique Camille, c'est le médiété. C'est une méthode, finalement, qui est détenue par l'association. Elle consiste à donner un maximum de détails verbaux sur chaque mouvement. Chaque mouvement va être détaillé en parlant des différents muscles du corps, en parlant du positionnement. On montre en tant que praticien une ou deux fois le mouvement. Et ensuite, on va se déplacer dans les rangs et on va corriger les personnes par le toucher. Donc, il y a les trois dimensions, finalement. Support visuel, on va montrer le mouvement en tant que praticien. Ensuite, on va venir détailler le mouvement. Et là, certains patients apprennent le nom de certains muscles qu'ils ne connaissaient pas. Et ensuite, on va venir corriger par le toucher les patients qui n'ont pas réussi, par les deux consignes précédentes, à se positionner.
Donc, 3 mois, c'est le trimestre généralement utile pour se réadapter, refaire en sorte que le corps reprenne ses marques après une blessure artificielle, parce que ça a été créé par une opération souvent.
Alors, 3 mois, c'est bien le minimum. Ouais. Après, c'est vrai que au bout de 3 mois, je parle de 3 mois renouvelables. Au bout de 3 mois, le patient peut rester. Le patient, s'il est encore en traitement, il est encore affaibli, au cœur de la chimiothérapie, je peux renouveler ces 3 mois de pratique. Et au bout de 3 mois, on refait un point. Et si là, le patient est moins fatigué, n'a plus de traitement, le but, c'est de lui faire prendre son envol vers une nouvelle activité physique, mais adaptée. Le but, c'est pas d'envoyer le patient vers une salle de sport qui pourrait le mettre en péril, surtout après la construction du travail à la Camille, qui est minutieuse et rigoureuse. Donc, pour promouvoir toute cette activité, on se tourne énormément vers les mairies. Il y a toute une action de communication autour de ça, les mairies, les journaux. On est en contact avec les médecins, les praticiens, de façon à... Je parle des praticiens parce qu'on est différents praticiens dans toute la France au sein de l'association dont le siège est à Paris. et on a tout un travail de com à faire, communication, comme là aujourd'hui à la radio, dans les journaux, les médecins, les groupements médicaux, les pharmacies. Là, j'ai pris rendez-vous dans différentes pharmacies avec différents pharmaciens sur Bergerac, enfin précisément Bergerac et alentour, pour faire connaître la Camille. On laisse des flyers, on laisse des affiches. Donc tous les moyens sont bons à prendre, mais c'est justement toute la difficulté du métier. Aller chercher finalement des personnes qui croient en notre activité, avec qui on a instauré un lien de confiance, qui vont nous envoyer des patients. Il faut vraiment instaurer un lien de confiance avec les groupements médicaux et les professionnels de santé pour qu'ils aient envie, qu'ils pensent à nous. Ce qui n'est pas forcément intuitif et évident, chacun a sa journée chargée. Et le but, c'est que les prescriptions se systématisent. Et pour ça, il y a un travail de fond. Au bout de 4 ans, je vois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour vraiment atteindre l'objectif d'une patientèle systématisée, que le médecin, quand il voit un patient en situation de cancer, se dise « tiens, je vais faire la prescription et penser à la Camille ».
Il faut que ça devienne un automatisme.
C'est ça, pour les médecins traitants, les oncologues, ce serait l'idéal. Les spécialistes, comme les pneumologues aussi, ils sont les hématologues. Les pharmaciens sont très bien placés parce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de cancer qui ont les effets secondaires, des nausées par exemple, et qui viennent, c'est un grand exemple très général en chimio, ils viennent, ils prennent leurs médicaments en pharmacie, et c'est à ce moment-là que le pharmacien peut saisir l'opportunité. Regardez, il y a une affiche, je vous glisse un petit flyer dans le sac. Et ça, c'est une activité intelligente et collective.
Quelles sont les conditions pour participer à ces ateliers, que ce soit à Coulounieds ou à La Monzie ?
Les conditions, donc, déjà, c'est d'être en situation de cancer. La seconde condition, c'est d'être un minimum motivé. On sait que le patient va avoir du mal à se lever le matin. On sait qu'il va y avoir des moments de grande fatigue. Il ne s'agit pas pour le patient de baisser les bras dès qu'il est fatigué. Donc c'est le rôle du praticien aussi de le remotiver, mais il faut que le patient ait vraiment cet engagement, soit assidu. Quand l'assiduité n'est pas assez importante, on est en capacité, enfin on a ce droit de couper le programme parce que le patient et le praticien ne travaillent pas dans la même direction. Il est important que le patient ait la prescription médicale, donc l'autorisation de l'oncologue, ça on ne fait pas l'impasse dessus, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure essentiel. Et que le patient quand même s'engage à bouger à côté et à avoir un projet sportif. C'est-à-dire qu'il vient à la Camille, mais il a conscience que la Camille est un tremplin vers une nouvelle activité sportive. Donc il faut que le patient, tout au long des 3 mois ou plus à la Camille, réfléchisse à une nouvelle activité à faire par la suite, pour garder l'autonomie et surtout ne pas gâcher tout le travail effectué avant. Il fait un travail, mais le but, c'est pas de le faire qu'au cœur de la maladie, c'est de saisir l'opportunité, malheureusement, du cancer comme l'opportunité de bouger et d'aller plus loin après dans une autre pratique. Le but également, c'est d'aller de bouger à côté, de mobiliser la famille, les voisins pour aller pourquoi pas marcher ou faire une activité complémentaire, tant que ça met pas en danger le patient.
Bien sûr. Y a-t-il un coût, une adhésion pour participer à ces ateliers ?
Alors, anciennement, il y avait un coût. Actuellement, c'est entièrement gratuit.
Le siège. C'est pris en charge, pardon, Julia, par la sécurité sociale.
Eh bien, justement, le siège est à Paris. Et en fait, le siège a un service partenariat qui va chercher des sous dans différentes structures pour financer le programme Camille. D'accord. Donc, actuellement, le patient, il arrive, il n'a ni carte de mutuelle à donner, ni rien. Il s'assoit, il fait la consultation et il commence. La gratuité, c'est assez attractif aussi. On sait que le patient, déjà, a cette difficulté de trajet. Il faut qu'il vienne de chez lui jusqu'au lieu de pratique. Le VSL n'est pas pris en compte dans notre pratique en plus, donc le VSL, les taxis ne sont pas disponibles pour la Camille. Il faut que le patient trouve un proche pour l'emmener ou vienne par ses propres moyens. Donc déjà, il ne faut pas que le patient se mette en danger sur cette dimension-là. Si en plus, il y avait le coût financier, ça rajouterait une complexité. On sait que le patient est déjà fatigué, qu'il y a souvent des arrêts de travail associés à cette maladie. Donc en plus, on ne peut pas rajouter un coût financier. L'association l'a donc retiré il y a maintenant plus d'un an.
Et il n'y a pas d'adhésion non plus à la Camille ou à un autre organisme.
Alors, chaque patient est dans le droit de donner, il peut faire un don. Et ça, c'est très important parce que l'asso a besoin de moyens, comme toutes les associations. Mais le but, ce n'est pas de compléter une adhésion. Le but, c'est de venir bouger et de répondre à notre métier en tant que praticien. Donc, pas d'adhésion, pas de papier à remplir, simplement. Avant, il y avait une lettre d'engagement. Même la lettre, on ne la fait plus. On est sur un engagement moral avec le patient uniquement. On dit sur la consultation qu'il faut que le patient soit assidu. et il commence ses séances.
Et c'est parfait. Et ça dure donc minimum 3 mois ou plus éventuellement.
3 mois ou plus. Alors j'ai certains patients à titre exceptionnel qui restent beaucoup plus parce qu'on est sur de la maladie chronique, affection de longue durée, dans le temps finalement, des cancers qui ne sont pas guérissables ou qui vont... Qui dure au fil des années. Après, si le patient est assidu, si le patient montre de la motivation et puis s'ouvre à de nouvelles activités en dehors de la CAMI, on peut tout à fait le garder très très longtemps. On est différents praticiens également à se voir donc sur des séminaires, on se voit sur des formations, donc on est formé finalement toute l'année en tant que praticien. Donc là, je reviens sur le métier, mais c'est un métier qui est assez intéressant pour ça. On a un service communication aussi qui nous aide énormément, qui nous font les flyers pour des réunions d'information. Là, d'ailleurs, très important, le 23 septembre, au dojo Michel Dasseux, j'ai une réunion d'information de prévue, de 10h à midi, pour informer finalement les patients et les praticiens des changements et des méthodes de fonctionnement de la CAMI. Ces réunions, je les fais tous les trimestres. Et donc ces réunions d'information finalement sont relayées par tout le système communication de la CAMI. Il y a un site internet, il y a Instagram, Facebook. Tout le service partenariat nous amène beaucoup de fonds. Et du coup, il ne faut pas oublier tout le siège CAMI qui est très actif à Paris.
Très bien, merci beaucoup. On peut, par le biais justement de ces réseaux et du siège à Paris, vous contacter directement, ou ce sont les praticiens qui font la démarche auprès de vous en vous envoyant les patients?
Un peu les deux. Les praticiens peuvent faire la prescription médicale et après je leur ferai un retour sur l'inclusion du patient. Après, moi, on peut me contacter parce qu'il y a des flyers, il y a mon numéro sur Internet et le numéro pro, il est accessible sur Internet, Instagram, les flyers, en pharmacie. Les personnes, ça arrive aussi qu'elles me contactent via mon Instagram parce que je suis assez présente sur Instagram et je suis en train de construire ma communauté. Donc, il y a tout ce travail de fond qui permet aux personnes d'avoir accès facilement à la CAMI en Dordogne, à mon numéro et d'avoir une réponse rapidement surtout.
Très bien. Merci beaucoup pour ces minutes que vous nous avez partagées sur Liberté FM, Julia. À très bientôt.
Merci Pascal, à bientôt.